Tu te mets un peu, recule un peu, tu te mets contre le mur. Ok.
C'est quoi notre mot de sécurité? On n'a pas fait de mot de sécurité? On va choisir un mot de sécurité.
Ok, vas-y.
Alors, qu'est-ce que c'est un safe word, déjà?
Comment?
Un safe word. Tu sais ce que c'est, un safe word?
Bah,
si
on
prend un mot
de
sécurité, que tu sais pas ce que c'est.
Ouais.
C'est quoi ton mot de sécurité?
Mot de sécurité. C'est bibine.
Bibi?
Bibine.
Bibine? Bibine, ok. Allez. Donc
Bibine.
Voilà.
Ok, on a un mot de sécurité. Ça marche.
Ça, c'est un mot de lesbienne alcoolique, un peu.
Bah écoute.
Donc voilà, mot de sécurité, bibine.
Ok. Du coup, ça va?
Oui, ça va.
Ok, tu te mets un peu contre le mur. T'es okay. Bien là? Ok, tu plaques bien tes mains contre le mur.
Ok. Je me mets de face au mur ou dos au mur?
Tu te mets dos au mur.
Ok.
Dos au mur, ok.
Ok.
Zap, tu me passes la corde? Ok. Ok, vas-y, attends. Décolle-toi un peu du mur. Ok.
Ouais.
Ça va, je te serre pas trop, là?
Oh, tu peux serrer plus.
Ok. Ok. C'est bon. Attends, là. Tu me passes les pinces, Zab?
Tiens.
Non, attends, on peut le faire. Ok, vas-y. Je les mets où? En... Ça te va, si Zab le fait?
Bah, je vois rien avec le bandeau, je vois même pas ce que c'est comme pince.
Okay. Elles sont électriques.
Ah non, moi je suis pas électrique.
Elles sont... Elles sont en acier?
Oui, enfin, faut qu'il... enfin, moi j'aime pas les trucs qui font mal. Hein. Très bien.
Ok, bah on a un caoutchouc. Voilà. Ok, bah tu penses à mon caoutchouc. Ok. Tu lui mets. Tu lui
moi
en
je
mets
suis pas dans la douleur, je suis pas triple douleur.
Ok, tu lui en mets deux sur les tétons. C'est pas des. C'est des softs.
Ouais,
tu lui en mets deux sur les tétons. Ok.
Tu peux desserrer un peu s'il te plaît?
Ouais, attends.
Parce que moi je préfère quand il y a des vis. Serrer, c'est plus précis, parce que là, ça fait un peu pince à linge, mais bon.
On a essayé de faire une espèce d'improvisation de dialogue SM, donc c'était très improvisé. Du coup, aujourd'hui, on va parler de porno, post-porn et de SM, et on est avec Marie-Hélène Boursier, salut.
Bonjour.
Et on est Zab et moi, et Anaël.
Je vais quand même enlever les pinces à seins pour...
Ah oui, excuse-moi, bien sûr, j'aurais dû le faire. Marie-Hélène, on va te présenter peut-être rapidement. T'es prof à Lille 3,
ouais.
T'es militante et théoricienne queer. Tu d'ailleurs, tu fais pas vraiment la distinction, si je me trompe. Enfin, je sais pas si tu fais une distinction, mais...
Bah, il peut pas y en avoir pour
voilà.
Moi.
Voilà, ouais. Ok. Féministe, spécialisée oui. Par les sujets queer, globalement. Voilà, tu as publié Queer Zone 1 en 2001 aux éditions Ballan.
Tout à fait.
Queer Zone politique des identités sexuelles et des savoirs,
ouais.
Qui a été ensuite republié. Je crois qu'il est plus disponible en ce moment. Je préviens ouais. Juste.
Et... Il est épuisé. Troisième édition épuisée. Mmh. Je suis désolée.
Bon, c'est pas grave. Au pire, on pouvait emprunter dans des bibliothèques.
Je vous signale dès maintenant que vous pouvez tous les charger gratuitement en PDF à mon adresse academia.edu. Academia.edu, Marie-Hélène Boursier. En fait, pour revenir à la question de la naissance du mouvement queer, enfin, je sais pas si c'est un mouvement, parce que quand on a commencé... les premiers séminaires qui se déroulaient au Centre Gay et Lesbien de Paris et dans une université à Paris. Hein,
c'est avec l'association Zo, c'est ça ?
Voilà, pardon, mais c'est ça, plutôt commencer par là. Il n'y avait pas de mouvement. Je ne dirais pas d'ailleurs qu'il y a un mouvement queer en France, enfin, ça saurait. Il y a de la culture queer, il y a des gens qui maintenant, je pense, s'identifient comme queer. C'est pas à peine de dire qu'on ne peut pas s'identifier comme queer, si on peut, enfin voilà. Et... Mais à l'époque, le terme de queer bon, était très diffusé dans les milieux anglo-saxons, essentiellement états-uniens, etc. Il y avait toute cette relecture de la pensée française par la théorie queer, Butler, etc. Mais il y avait, quand on a dit queer en France, tout le monde disait « qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Alors en plus, on avait fait le choix de ne pas traduire, hein, de garder le terme de queer, parce qu'on ne trouvait pas d'équivalent, on voulait pas... On savait que c'était une injure, mais si on disait Gwyn, on disait que Gwyn, si on disait PD, on disait que PD, si on disait... Puis trans, il n'y avait pas... Bon.
Et puis, il y avait...
Y a eu oui, ça, c'est vrai, c'était une bonne traduction, en fait, mais ça, c'est pas nous qui l'avons faite. Et je crois que nous, on a fait un choix qui est peut-être discutable, mais qui était de se dire, on ne traduit pas parce qu'on aura plus de facilité pour entrer dans l'espace public et on nous redemandera sans arrêt qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça nous amènera aussi à faire un peu, enfin, à faire de la pédagogie. Il y a des gens qui nous l'ont reproché, enfin pas en France, mais dans des conférences, qui nous disent, oui, alors voilà, vous êtes cachés, il y avait un placard... Non, après, je crois aussi qu'on voulait marquer que c'était une culture anglo-saxonne et que ça ne nous posait pas de problème. En fait, la chose qu'on essayait simplement d'affirmer, parce que ça, c'est important de se remettre dans le contexte, au Centre gay et lesbien de Paris en 1996, enfin, fin des années 90, quoi, si tu dis qu'il y a une culture gay ou une culture lesbienne, les gens te disent ça va pas la tête, quoi. Donc, c'était une manière d'être très out. Bon, il y avait des gens qui étaient sortis du placard, mais d'être, on est hors du placard. On veut être visible et on veut être visible en tant que queer. On ne veut pas être des gentils homosexuels. Donc, dès le départ, il y a vraiment une rupture, une désidentification avec le terme homosexuel. Parce que, bon, de toute façon, ça, c'est pas possible. C'est un terme médicalisé et tout. Et puis, ça commençait... on ne voulait pas être les bons gays. On ne voulait pas être les bonnes lesbiennes.
Avec l'assimilationnisme.
Et maintenant, je crois que le... Oui, voilà. Et, oui, oui. Et puis, bon, à l'époque, il n'y avait même pas le mariage. Mais on sentait bien que... Mais c'était surtout que...
Le bon gay pour toi, c'est qui s'identifie aux normes ou aux normes de l'hétérosexualité, ou c'est quoi exactement un bon gay?
Moi non, moi j'ai jamais trouvé que c'était. Je crois que c'est pas vrai que les homonormatifs, ceux qui veulent être assimilés, intégrés, qui disent mais nous c'est pareil, il y a pas de différence, etc. Ils singent l'hétérosexualité, limite jamais pensé ça. Je pense que de toute façon, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils le font pas, ils font autre chose. Tu vois, quand tu répètes, tu fais toujours quelque chose un peu de travers. Enfin, ce serait imaginer qu'on fait à l'identique. Non, je pense que, à la limite, je m'en fiche un peu des normes qui veulent. Même pas si c'est une question, toi, ils se disent pas, on va être homonormatif. Non, moi, ce que je vois, c'est tout ce qu'ils enlèvent, plutôt. Voilà. Tout ce qui disparaissait déjà à l'époque. Alors, déjà, il y avait l'idée que tu peux pas être. Qu'il n'y a pas de culture lesbienne, pas de culture gouine, parce qu'ils pensaient que. Être gay ou être lesbienne, ça se résumait à des pratiques sexuelles. Donc évidemment, nous on était contre, on voulait qu'il y ait un univers référentiel, un cinéma, une histoire, une expérience, ben voilà, une subjectivité à travailler. Et l'idée, c'était, bon, il y avait très peu de productions qui parlaient des PD des Gouines, mais on va dire même à la fac, enfin je dis pas que la fac c'est un lieu, voilà, mais il y avait peu d'écrits, il y avait, voilà. Donc nous on réaffirmait la culture, et en réaffirmant la culture, on l'affirmait au sens sociologique aussi, entre guillemets, c'est-à-dire nos pratiques de genre, nos pratiques sexuelle, la culture SM, mais aussi tout ce qui est justement genre tordu, enfin, qui est des butch, qui est des tapettes, etc. Parce que déjà dans les années 80, à la fin des années 90, on voyait bien que bon, bah, pour être pour le Pax, pour ceci, pour cela. Et là, c'est criant, c'est-à-dire que depuis que le mariage gay a été voté, enfin la loi, on voit bien que les gens ils s'identifient maintenant les trois quarts des gays, non, alors moi je veux dire assimilationnistes, qui n'ont pas envie d'être queer, voilà, parce que j'ai pas envie de les gays qui se marient, bon voilà, il peut y avoir des gays qui se marient, mais ça les intéresse plus d'affirmer une culture de genre ou une déviance de genre, nous compositive, une perversité au sens où, voilà. Donc on est parti là-dessus, et là le divorce entre queer et gay, je pense qu'il est très important. Et après on n'a pas énormément avancé au sens où il n'y a pas d'agenda queer, il n'y a pas d'agenda politique, alors que moi je pense qu'il existe, il est là, c'est-à-dire les gens ils veulent autre chose, il y a des gens, il y a des courants queer qui sont beaucoup sur la transformation sociale, la redistribution économique, la critique du néolibéralisme, et c'est là qu'on voit que d'ailleurs toute cette pensée politique queer, évidemment qu'elle parlait pas que de sexualité, de pratique sexuelle, et d'ailleurs c'est très bien d'en parler aussi, parce que c'est comme ça qu'on l'échange, mais que c'est tout un spectre, il y a vraiment eu un... Voilà, et la culture gay, bon, à un moment, elle a fait ça, peut-être aussi dans les années 70. Mais dans les années 70, si tu reprends Stonewall ou même Le Phare, là, il y a les films de Rémi Lange là, qui vont ressortir.
Traduire Le Phare, vite fait,
Front c'est d'action, Front homosexuel d'action révolutionnaire. Mais c'était la même chose quand il y a eu Stonewall. Bon, Stonewall, on va pas rediscuter Stonewall, est-ce que c'est l'origine du mouvement gay et tout, mais dans les années 60, tous ces mouvements pensaient la question. Là, on nous rabat le je sais pas quoi avec l'intersectionnalité, mais les gays à l'époque étaient de mèche avec les féministes, bon, c'était des luttes un peu parallèles, étaient dans les luttes antiracistes parce qu'ils étaient contre la guerre du Vietnam, donc forcément ils étaient aussi dans les problématiques de lutte contre le racisme. Enfin, c'est ce qu'on appelle une politique multi-issue, c'est-à-dire il y avait plusieurs problèmes. Là, on a une petite politique gay, corporatiste, où il faut se marier, faire des enfants, voilà, donc... Oui, pardon, c'est un peu long.
Justement, pour revenir sur le terme de queer, le fait que les gens demandent ce que ça veut dire, etc., ça permet de réaffirmer, parce que tu disais tout à l'heure qu'on ne voulait pas entendre parler de culture gay et de culture lesbienne, ça permet d'affirmer une culture gay et lesbienne et queer, enfin tout ce que ça sous-entend aussi, enfin de l'amener...
Puis de montrer que l'hétérosexualité est aussi une culture d'une certaine manière.
Bah ça a été, je pense que ça a été vraiment ce qui est ressorti là, à la fin des années 90, parce que mais c'était le cas dans la première vague de la théorie queer, on va dire, anglo-saxonne, donc Butler, Deloretis et tout, mais ça c'est Wittig. Hein. Et puis nous, quand on a découvert Wittig en lisant Butler, enfin moi c'est comme ça que j'ai découvert Wittig quand même. Hein.
Mais on va peut-être faire une petite pause, balancer un morceau de musique et on revient tout de suite.
Check the level bar, go everybody. I put on some makeup, turn on the 8-track. I'm putting the wig down from the shelf. Suddenly I'm this punk rock star of stage and screen, and I never turn it back.
Alors, on est de retour. La chanson, c'était...
Hedwig and the Angry Inch, Wig in a Box. Et ça apparaît dans un film de Cameron Mitchell.
Voilà, on est toujours sur RCV. Vous êtes avec Jean Rage, donc avec Marie-Hélène Boursier, moi-même, Suzanne et Anaël. Et aujourd'hui, notre émission porte sur le post-porn. On n'a pas encore trop parlé pour l'instant. Justement, on peut peut-être revenir... sans définir exactement les termes, qu'est-ce que ça englobe finalement le post-porn et d'où ça vient? On a parlé du queer avant, sur la démarche politique que ça impliquait. Peut-être qu'on peut démarrer de là finalement. Le post-porn, c'est quoi? C'est une espèce de critique de... la production d'un espèce de discours. Bon, là, c'est pas oral, c'est de la production visuelle, quoi. Mais en critique avec la pornographie traditionnelle, je pense qu'on pourrait expliquer ça comme ça,
oui,
plus ou moins.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Bon, l'idée, c'était que... Bon, constat de base, que la porno straight, elle ne convenait pas, quoi. Il y avait les lesbiennes, on sait bien le traitement qu'elles ont, les girl numbers dans les porno straight. Et il y a une petite production maintenant porno LGBT, enfin il y a une grosse production gay, pardon, mais toujours pareil, à la fin des années 90, il n'y avait pas grand-chose en termes de pornographie, que ce soit féministe ou féminine, et a fortiori lesbienne. Et d'ailleurs, il y avait toute une querelle, enfin il y a eu la sexpose aux États-Unis, les féministes n'étaient évidemment pas partis sur l'idée de faire une pornographie, quoi. Donc, mais moi, ça m'est venu, j'étais familière du bouquin de Linda Williams que quelqu'un m'avait ramené de San Francisco, j'insiste là-dessus, parce que moi, c'est toujours des livres que des gens m'ont ramené, que j'ai jamais trouvé en France, etc. Un livre qui s'appelle Hardcore, et qui était une analyse foucaldienne, en fait, du mode de confession dans les pornos des années 70, des frères Mitchell, etc., dans Behind the Green Door, enfin, la grande époque du porno à New York, quand elle n'était pas encore basculée du côté industriel à Los Angeles, comme maintenant. Et c'est vrai que, bon, les gens faisaient du porno, c'est pas qu'ils faisaient du porno artistique, mais ils savaient pas comment le faire, en fait. C'est-à-dire que même Deep Throat, enfin, tout là, il va y avoir un biopic avec Linda Lovelace qui va sortir, qui était l'héroïne, donc, de Deep Throat, Gorge Profonde.
Oui, il y a une grosse polémique, d'ailleurs, après.
Qui
n'était pas un des sujets de la Sex Wars, non? Non, quand elle a pas vraiment.
Linda, alors bon, oui, le problème c'est de savoir. Enfin, il y a plusieurs versions de l'histoire, c'est-à-dire que Linda Lovelace a été récupérée par Catherine McKinnon Andrea Dworkin. Elle a été récupérée, elle était d'accord aussi, enfin pour être du côté des anti, enfin des féministes contre la porno, avec cette idée que c'était.
La quintessence
de l'objectivation des femmes et tout, sachant que Linda Lovelace, sur le tournage en fait donc c'est un film de Damiano, il semblerait, moi je veux pas, Linda Lovelace est morte en plus, donc à un moment, oui, elle est partie comme ça dans ses argumentaires. Il semblerait qu'elle se faisait surtout tabasser par son mari, oui. Chuck Traynor, donc qui était aussi un peu son agent, quoi, qui lui piquait la thune, et qui était très jaloux, en tout cas sur le tournage, du fait qu'elle s'amuse, que ça se passe bien, etc. Damiano a tourné avec Annie Sprinkle. Moi, j'en ai parlé avec Annie Sprinkle de tout ça. Bon, après, on n'est pas obligé de croire les gens, mais... J'ai pas l'impression, je pense qu'il y a du porno tout à fait dégueulasse, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont exploités dans le porno, je suis en train de défendre le porno, mais je crois que le porno qui s'est fait, encore une fois, à New York, là, dans ces années-là, avec, en plus, c'était de la pellicule, ils avaient un peu d'argent, c'est plutôt, il a été financé par la mafia, d'ailleurs, le film, donc, mais il y avait même pas un marché, enfin, faut se représenter que c'était pas les contraintes de maintenant, donc, je crois, moi, bon, voilà.
Il y avait rien de format, peut-être.
Non, les gens inventaient les trucs, ils ne savaient pas quoi, comment. Alors maintenant, tout est codifié, tu fais ci, la DP, le machin, le truc, le bidule, le plan génital, le com-shot. D'ailleurs, le com-shot est arrivé à ce moment-là pour visualiser, parce qu'il fallait bien... Le mec ne pouvait pas tout le temps être dans la file, sinon ça ne faisait pas d'image. Enfin, il fallait voir.
C'est le com-shot, ça a été critiqué quand même, justement, dans le post-porn.
Enfin, le com-shot a été critiqué, mais nous, on s'en fout du com-shot, parce que nous, on ne prend pas des jacques faciales, tu vois, on s'en fout, on ne se prend pas des jacques dans la gueule. Puis après,
on se lesbienne, mais après, ça dépend.
Se faire éjaculer sur la figure, c'est tout le problème de comment tu le ressens et comment c'est fait. Et il y a peu de... Enfin, vu comme maintenant, ça a été solidifié comme représentation, c'est clair que pour s'en réapproprier, il vaut mieux essayer de faire autre chose, j'imagine. Le problème, ce n'est pas le sperme, enfin, voilà, où je crois que le problème, c'est le point de vue. Non, et puis c'est le point de vue des nanas, quoi. Je veux dire, elles, apparemment, les nanas, ça les excite pas de se prendre des giclées de foudre dans la gueule, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ou sur le dos, ou le mec qui sort, qui tombe. Enfin, voilà, bon.
Oui, puis c'est le côté aussi centralité du plaisir masculin qui vous pose. Enfin, moi, en tout cas, qui me pose un peu le problème aussi, par exemple. C'est le fait que, du coup, il y a une espèce d'éradication du plaisir féminin.
Dans le porno
mainstream, quoi.
Ouais, en même temps, les nains sont toujours représentés en train d'hurler de plaisir. Ouais. C'est compliqué,
c'est
quoi.
Vrai, mais en fait, le cumshot, c'est vraiment centré le début et la fin du porno.
Ça fait signe, comme...
Enfin, quand il y a le cumshot qui correspond à l'orgasme masculin, en gros. Du coup, il n'y a pas de représentation de l'orgasme féminin. Il est à moitié dilué tout au long du porno, parce qu'en gros, elle est tout le temps...
Si, il y a l'arc hystérique qui revient, tu vois.
Oui, mais
qui est d'ailleurs dans tous les films straight. Dès que tu vois une représentation standard de jouissance d'orgasme dans un film, la fille, elle ouvre la bouche et elle a la tête qui part.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais non, je crois qu'il y a une réappropriation de l'éjac dans la culture post-porn actuelle, avec l'éjac féminine, qui est quand même très à la mode, qui est par exemple Diana Porno Terrorista, qui est partie au Mexique. Là, moi, je l'ai vue en août, elle a fait un atelier, une performance où elle éjacque. Son bouquin Porno Terrorismo a été traduit cette année en France par une petite maison d'édition basque. Le nom ne revient pas, mais donc c'est disponible. Et elle fait une éjac. Elle fait des ateliers d'éjaculation féminine. Après, on peut discuter, il faut l'appeler éjaculation féminine. Mais je crois qu'en fait, là, c'est complètement réapproprié comme quelque chose. En tout cas, chez Diana, c'est comme ça. Et les gens qui le font, un truc de puissance, un truc super positif. Comme quoi, voilà. Et après, c'est vrai qu'il n'y a personne qui se met là pour le prendre dans la figure. Donc, je pense que l'idée, c'était peut-être... donc ça veut dire autre chose. Et c'est clair que les éjacs de Diana Porno Terrorista, ça revoit et ça corrige un autre motif qui est celui de la femme Fontaine, qui est quand même super débilitant, quoi. Avec cette idée qu'il y avait des femmes comme ça, Fontaine, je me souviens d'émissions de Pivot.
On ne sait pas comment ça arrive.
Des femmes Fontaine, alors que oui, on peut très bien... En gros, tu peux apprendre à éjaculer. Après, tu peux t'amuser à penser que tu as une prostate, si tu veux. Enfin, on fait l'anatomie comme on veut. Alors après, certaines filles me disent « Ah oui, mais c'est encore des trucs masculins, etc. » Mais c'est toujours ça qui fait jouir, finalement, dans la culture lesbienne, c'est de jouer avec des codes de la masculinité. C'est comme les drag kings. Enfin, les drag kings, il y a une tension érotique qui est aussi par rapport à la masculinité. Bah, pour les gens sur qui ça marche, hein, mais... Ouais. Donc, voilà. Mais pour en revenir, donc, je ne sais plus pourquoi on est parti sur le post-porn.
On peut peut-être, sinon, revenir aux pratiques. Pardon. Enfin, en tout cas, ce que
c'est... Excusez-moi, je me souviens maintenant. Oui, donc, l'idée... Après, c'est au-delà d'ailleurs des... Je pense que ce que moi j'ai proposé, c'était une définition de critique de la pornographie moderne. Ça voulait dire interpréter la pornographie comme un régime du visuel, un dispositif visuel moderne, c'est-à-dire qui date, alors là, pas du 18e, parce qu'on est essentiellement parti sur les films, et je ne pense pas qu'on pourrait forcément projeter cette analyse-là sur la pornographie du 18e, etc., donc c'était critiqué, mais le dispositif pornographique, mais dedans on avait mis toute la critique féministe, même des films avec le male gaze, etc. Donc on a élargi, on a
dit le regard masculin.
On a dit le porno, voilà, le porno quand même, en termes de genre en plus, comme ça répartit les rôles, etc. Et pas simplement dans les films porno non plus. Donc, et puis après, on avait une critique aussi par rapport à Braya, tout ça. Mais c'était aussi l'idée que le porno, c'est quelque chose d'élitiste. En France, c'est tout un imaginaire de la transgression. Quand on voit Braya, il y a tout un imaginaire de la souffrance, de la jouissance, de tout ça. Donc elle aussi, on la critiquait comme étant finalement dans une... Quand elle dit qu'elle est porno pour faire... Tout ça on voulait aussi critiquer tout le côté un peu moderniste, cette culture-là, un petit peu...
Standard intelligentsia un peu
française, voilà. Donc ça, c'était une première chose, c'est le côté, on va dire, plus intello de l'affaire, mais... En même temps, l'article, il est sorti, donc le premier article post-porn, intitulé Post-porn, c'est comme ça que le mot est sorti dans Queerzone, parce qu'il y a eu cette censure de Baise-moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a fait un flyer au zoo et on a fait une lecture effectivement post-porn tout de suite de Baise-moi, mais on utilisait Baise-moi parce qu'on voulait réagir par rapport à cette censure. Il y avait la question du viol, mais bon, ça, elle le traitait très bien, le traitait tout seul. Mais on a voulu, dire, non, ça suffit, quoi. On doit faire une pornographie différente, on peut produire d'autres images, etc. Alors, c'est pas très original, parce que c'est une question qui s'est posée aux féministes aussi, et tout, mais là, ça a marché. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de... On va pas simplement critiquer la pornographie moderne ou straight, on va faire des films porno différents.
Ce qui change un peu d'une politique institutionnelle, c'est de considérer que mais c'est de considérer que dans le porno il peut y avoir, enfin le porno est politique ou peut c'est quand même c'est quelque chose d'important cet enjeu là
oui, puis il y avait l'idée de pas laisser le porno monde, en fait, l'idée en gros. C'était de pas laisser le porno aux autres et puis mais ça je pense qu'on a été poussé par c'est comme ça que nous on a récupéré la sexworks qui avait pas eu lieu en France mais qui était là de manière sous-jacente, c'est-à-dire on était un peu sur la lancée du féminisme en fait qui était ok sur le SM qui était pas pour être contre le porno mais qui n'a pas produit du porno puis là il s'est trouvé que on a dit on va en produire mais je pense que c'est aussi on a réussi à produire des images différentes aussi parce que il y avait les trans qui arrivaient, il y a de nouvelles pratiques sexuelles, le SM avait ramené beaucoup de choses moi je pense qu'à chaque fois ce qui a été déterminant c'était les genres quoi, c'était donc toutes ces cultures de genre qui forcément débouchaient sur des pratiques sexuelles nouvelles ou des représentations différentes. Mais c'est une autre manière de faire de la micropolitique ou de la politique des subjectivités, c'est ce qu'on disait au début. Et puis, il se trouve que ça a marché, c'est-à-dire que ça a pris en Espagne. Des gens, les ateliers ont fait que... Les ateliers post-porn, mais ça, c'est la continuité avec les ateliers, masturbation des féministes des années 70, etc. Et puis, ça SM dans les pays latino-américains. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe, oui.
Et le post-porn, oui. Peut-être qu'on peut essayer sans définir ce que c'est exactement le post-porn, mais pour que ça soit plus parlant. Essayer de trouver des espèces d'axes qui le différencient bien du porno traditionnel. Donc, je sais pas, premièrement, vu que c'est quelque chose qui est fondamentalement queer, peut-être déjà dire que ça s'inscrit dans une démarche de déconstruction des genres et des rôles associés en tout cas aux hommes et aux femmes, peut-être. Ça, c'est sûr qu'il y en a dedans. Peut-être qu'on peut aussi revenir sur le fait que c'est pas un laboratoire,
il y a un côté laboratoire.
Il y a un côté laboratoire, mais c'est aussi l'expression de sexualité différente et de subculture, quoi.
De corps différents aussi, peut-être.
Oui, il y a toute une... C'est-à-dire que là, par exemple, je vois, il y a un groupe qui s'appelle Yes We Fuck, et c'est toute l'idée de... Au départ, ça part un peu de la sexualité des handis, etc., mais en fait, c'est les corps différents, effectivement. Ouais, ouais. Donc, par rapport au porno standard, effectivement, c'est... pas de corps, non, les anormaux, les frics, les corps, etc. sont...
Réutiliser les objets plus aussi, pas forcément considérer
le god a joué un rôle, donc c'est pas naturaliste, les objets, la pénétration, mais d'autres types de pénétration, un rapport, on va dire, humain. oui, objet. Donc c'est, ça redéfinit tout le fétichisme, en fait.
Ouais, justement, j'allais y revenir très rapidement. Je trouvais intéressant, j'avais trouvé une ou deux phrases dans Queer Zone que je crois que je n'avais jamais pensé de cette manière-là. Ouais. Où tu disais, parce que tu disais, oui, par rapport à Freud qui dit que uniquement les hommes sont fétichistes.
Ce qui est fou, bien sûr.
Et voilà. Et ensuite, tu dis, mais finalement, le fétichisme, ce n'est pas seulement le fétichisme des objets. Tout peut être fétichisé. Oui, par exemple, un doigt peut être fétichisé. Je prends ça comme exemple. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que le fétichisme, on pense généralement je sais pas à quoi on pense, mais en fait, ce que tu dis, c'est que finalement le fétichisme n'a pas de frontières, quoi. C'était intéressant, et peut-être que c'est aussi, je sais pas, un des.
Oui, mais ça marche pour le fétichisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de fétichisme, c'est qu'on parle de toutes les catégories ou de les déviances sexuelles telles qu'elles ont été codées par les sexologues au 19e. Bon, Freud, il a piqué plein de choses chez Krafft-Ebing, chez Ellis, etc. Le fétichisme, l'algolanie, le sadomasochisme, c'est pas Freud qui l'a inventé, enfin, qui a inventé les termes, je veux dire. Donc, et en fait, justement, dans la pornographie straight, dans la pornographie standard, on retrouve ces catégories, mais de manière complètement voyeuriste, objectivement. Il y a toujours eu des pornos avec des chimères, il y a toujours eu des pornos avec des amputés, il y a toujours, enfin je parle là du porno standard, quoi. Il y a des pornos avec des noirs avec une grosse bite, il y a des pornos exotiques, il y a plein de sous-catégories qui sont complètement racistes, qui sont complètement lesbophobes, enfin bon, j'aime pas trop ça, mais et finalement, c'est ça qu'a fait le post-porn. Alors évidemment, c'est pas à l'échelle industrielle ou commerciale, même si j'ai la pornographie qui est faite par des gens comme Madison Young ou comme Courtney Trouble à San Francisco. C'est une espèce de petit modèle business, en fait. C'est le modèle états-unien où on se réapproprie quand même un marketing de niche. Elles gagnent de l'argent avec leur film, je ne leur reproche pas. Mais, et puis du coup, elles sont arrivées à très rapidement à une certaine standardisation, d'ailleurs, de leur format, etc. Mais donc là, les billes, les trans, les FTM, je n'avais jamais vu de FTM baiser quand même dans le long porno standard. Et heureusement, finalement, quoi. Donc, il y avait un champ. Enfin, il y avait... Et c'est complètement soit positiver les déviations, parce que nous, oui, on est d'accord pour être SM, on est d'accord pour, tu vois, sans que ce soit la pathologisation du 19e. Et en même temps, ça a donné, oui, des pratiques sexuelles différentes. Je crois aussi qu'il y a tout un recentrage, le mot pas super heureux, mais sur l'analité, sur le trou du cul, sur le travail du cul, etc. Et puis, après, il y a des trucs... je sais pas, la sexualisation d'espace public, il y a beaucoup de choses de performance. Je crois que la performance, ça joue un grand rôle aussi.
Pour s'approprier comme l'espace forme.
Oui, il y a des perfs post-porn quand même.
Urban porn.
Il y en a eu ici à Lille. Voilà, donc il s'est passé quelque chose, quoi. Enfin, il se passe quelque chose. Ouais. Voilà, donc. Mais moi, je suis super fière de ça. J'aime pas le terme, mais ouais, franchement, s'il y a bien un truc que j'ai fait dans ma vie et que je revendique, c'est ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais de que ce terme ait pu. Enfin, qu'il soit sorti, qu'on en ait fait quelque chose, que les gens fassent quelque chose. Ben, je suis super heureuse, quoi, de ça.
Mmh. Alors, moi, j'ai une question. En fait, j'ai regardé une interview de Bruce Labo sur Internet. On vous mettra le lien. C'est une interview qui est super bien faite, qui est sous-titrée, qui a été réalisée en septembre 2009,
ouais,
pendant le festival Étrange Festival de Paris.
Ouais.
Et en gros, il parle, lui, de sa manière de travailler. Il explique comment ce qui l'intéresse dans le post-porn, c'est de travailler sur les tabous, sur ce qui n'est pas montré ou ce qui n'est pas censé être montré.
Ouais.
Donc il parle de plein de trucs. Là, il reprend exactement ce que tu disais, Enfin, il a fait un film avec un mec amputé, ça s'appelait Hustler White.
Dans Hustler White, il y a une scène où il y a un gars amputé qui pénètre un autre,
avec sa jambe qui est
amputée. Mais d'ailleurs, Hustler White, c'est un peu le cabinet des perversions, la structure du film, c'est ça.
Ok, ouais. Mais j'ai pas vu le film.
C'est très bien, très bien, très bien, très intéressant, Hustler White.
Il revient sur plusieurs films à lui, sur lesquels il a travaillé dans le tabou, et il parle de quelque chose de... Enfin, il dit qu'il y a deux grands tabous, par contre, dans lesquels on ne travaille pas sur le post-porn. Mm. D'un côté, c'est la pédophilie. Et de l'autre côté, lui, il parlait de Snuff, donc ça ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est en gros un film où il y a des... qui met en scène des personnes.
C'est le fantasme de penser, quoi, qu'il y a des films où on tue les gens et que c'est une forme pornographique. Torture porn, ça s'appelle, oui.
Voilà, et en gros... En gros, le post-porn, ça a l'air d'être quelque chose qui a aucune frontière, aucune limite, vu que c'est...
Ouais, mais je ne suis pas du tout d'accord. Il m'agace, en fait.
Ah, t'aimes pas.
Non, c'est pas...
Mais qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, justement, je ne suis pas du tout...
Comment définir ces limites-là aussi?
Je trouve ça... je trouve ça idiot de partir sur la notion de tabou. Je la trouve justement moderniste, on dirait du Bataille, du Sade, on va transgresser. Moi, je m'en fous des tabous. C'est, genre, enfin, au sens, c'est un terme qui ne me parle pas.
Okay.
Enfin, après, et je pense que Bruce Labrousse se met dans une idée, je suis transgressif. Moi, je n'ai pas besoin de me dire, ou les gens qui font le post-porn que je connais, ils ne sont pas là pour dire on est transgressif, on est subversif. Ils n'ont même pas besoin de ces termes-là pour faire ce qu'ils ont à faire. Quoi. Ce que je veux dire, c'est dire... Cette histoire des frontières qu'on transgresse, et en plus il y a certains qui le feraient, pas d'autres, et puis ceux qui le font pas, c'est
mais
des
invités. Ça
m'agace. Non, mais c'est vraiment un truc moderniste, c'est-à-dire,
c'est
des artistes qui sont capables de faire des choses qui sont en avance sur leur temps, c'est une avant-garde sexuelle de merde. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Après, les films Bruce Labrousse, d'ailleurs, fonctionnent pas nécessairement comme ce qu'il vient de dire, et là il vient de faire un film qui va sortir, il va être distribué par Daniel Chaban. Donc, épicentre film sur les relations intergénérationnelles entre un jeune garçon et quelqu'un de plus âgé. Tabou, j'en sais rien, dans les années 70, les vieux PD, ils allaient toujours chercher des petits jeunes. Donc, toi, faut.
Oui.
Voilà. Après l'histoire, alors, par contre, cette question de pédophilie, ou de. Il a dit pédophilie et c'est quoi l'autre ?
Snuff, il a fait snuff.
Ça, je trouve ça débile hein, de dire que le snuff est un tabou. Le snuff, c'est débile, quoi. C'est comme, tu vois, si on me dit demain, ah, le tabou dans le porno, c'est le viol, parce qu'il y a des rape. Fantasy dans le porno, où on pourrait dire, moi, il y a des genres, viol, tu vois, etc. Ben moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. C'est un tabou, c'est une connerie, ça, c'est un truc dont je ne veux pas. Moi, je n'ai pas envie de transgresser, de voir des films, on voit des nains qui se font violer, ou qui sont violés, ou qui violent des mecs, ça peut être amusant, tu vois, à la limite, narrativement, parce qu'il a fallu qu'il y ait bien. Mais c'est con de dire ça, tu vois. Donc, l'idée de penser que les limites, voilà, le snuff, tuer les gens, parce que tu sais pourquoi le snuff, ça excite les gens? Ça excite les gens parce que c'est une explication du régime pornographique, enfin, qui s'explique par le porno, ça, c'est-à-dire que c'est un truc, à mon avis, une construction masculiniste du porno. Et tu lis ça dans HPG, par exemple, il dit « je ne sais jamais si elle joue, il a fixé ses problèmes que, justement, on ne peut pas représenter la jouissance de la femme, gnagnagna, en même temps, tout le monde, les grands artistes, ils savent le faire. » Enfin bon, il y a ce problème. Quand est-ce qu'on sait qu'une femme jouit? Et elle peut toujours mentir. Dans la culture straight, ils ont un problème avec ça. C'est un problème, je veux savoir, est-ce que c'est vrai? Bon, après, les femmes simulent, bien sûr.
C'est comédienne déjà à la base,
etc. Quoi. Non, mais voilà, en plus, elles sont hystériques, elles jouissent, elles jouissent pas. Enfin, il y a tout ce double bind, etc. Bon. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un. C'est radical. Si tu veux savoir si tu as vraiment fait quelque chose à quelqu'un, ah ben, tu le tues. Là, tu es sûr. Ou tu lui fais du mal. Tu le fais souffrir. Là, tu es sûr. Tu vois, si vraiment tu plantes un couteau dans le bras ou la jambe de quelqu'un avec qui tu es en train de sauter, une femme de préférence, tu vois, ben là, tu es sûr de ce que tu fais. Tu comprends? Là,
okay,
tu es sûr.
Il n'y a plus de simulation, il n'y a plus de recherche. Simulation. De,
c'est ça le délire.
Théâtre, quoi, là.
C'est ça le délire. Tu vois,
là, il n'y a plus de jeu, quoi.
Tu es dans la vérité.
Ouais,
mais en même temps, HPG dit, ben moi, tu vois, une fille, je lui donne une échelle de 0 à 10, comme ça, quand je la pénètre, je fais bien mal, comme ça. Comme ça, il sait qu'elle. Là, au moins, il est sûr, tu vois. Bon, après, des snuffs, peut-être qu'il y a des snuffs, tu vois. Internet, nous, on est sur un millième d'Internet, tu vois. Il y a tout un Internet souterrain. Il y a un Internet que.
Des réseaux qui circulent, voilà.
Tu vois, personne n'a accès à ça. Il y a sans doute des gens qui se payent peut-être ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça surface dans des films de hostel, tu vois, le deuxième ou le troisième, c'est des gens qui font monter des enchères sur des gens, puis après ils vont les tuer, enfin, etc. Bon, etc., etc. Mais en même temps, c'est débile cette histoire. Parce que là, parlons porno. C'est débile cette histoire de snuff. Qui peut être assez con quand tu fais l'industrie du porno pour tuer des gens, tuer tes modèles, même si c'est facile d'aller chercher des migrants dans les pays latinos, etc. C'est drôlement compliqué, ça, à chaque fois tu tues ton instrument de travail. T'as faut arrêter, quoi. C'est un trip. Moi, ça m'agace, ce trip sur le snuff. Tu vois, ça m'agace que quelqu'un, je m'excuse, d'en part sur.
Non, c'est une espèce de fantasme.
Mais
peu,
ça m'intéresse pas. C'est, je veux dire, c'est pas un tabou. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends même pas que Bruce, parte sur des trucs comme ça. La pédophilie. C'est vrai que Gayle Rubin, par exemple, quand elle fait son article, qui est un texte queer très important, Thinking Sex, qu'elle fait une espèce de mapping, donc, de, on va dire. Il y a deux représentations, les murs, je ne vais pas le raconter à la radio là parce que c'est invitable, mais bon, en gros, elle montre que voilà, bon, plus tu t'éloignes du sexe normal, bon, tu vas avoir la promiscuité sexuelle, tu vas avoir le sexe dans les parcs, le sexe non monogamique, le SM évidemment, et elle met dedans la pédophilie, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, des gens comme Pat Califia et Gayle Rubin, et d'ailleurs dans les années 70, on n'avait pas tout la vision, le discours qu'on a maintenant sur la pédophilie. Hein. Et il y avait toute une réflexion sur les relations intergénérationnelles. C'est pas la même chose que la pédophilie. Mais la pédophilie, tu vois, si on retombe aussi sur l'idée de la pédophilie, le tabou, quoi, c'est parce qu'il y a des gens... Le problème de la pédophilie, c'est le consentement. Tu vois, je trouve qu'on tourne toujours autour du même truc. Oui, quand on est là sur le tabou, en fait, on tourne autour du consentement. Et les gens, tu sais, c'est comme DSK, c'est comme Marcela Yacoub, c'est comme les gens de Libération, tous ces queutards de Technicard, tous les gens des Inrocks, finalement, ils sont là. Ah, quand même, tu vois, ah, il y en a marre du politically correct, ah, il y en a marre, ils veulent pas le consentement, ça les fait chier. Il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de mecs qui jouissent de l'idée que c'est pas consensuel. Alors tu sais ça, cette culture-là, elle m'emmerde, j'en veux pas et je la combats.
I like going to the design march because I like to be surrounded with women.
Okay.
trouvais intéressant dans ce dont tu parlais à propos du SM lesbien, c'est la question de la représentation de la violence dans la sexualité féminine. Mmh. Et je trouve ça très juste, en fait, finalement, c'est-à-dire que ça permet de contrer le fait qu'on se réapproprie une certaine forme de... Enfin, je sais pas si on peut dire violence ou... Du hard, quoi. Une sexualité hard.
Le terme de violence, moi, j'en ai pas besoin pour le SM. Non, je crois pas que ça a vu... Enfin, il y a des choses où tu peux avoir de la douleur, tu peux avoir...
Contrer cette espèce
Il y a... Évidemment, tu joues ou tu érotises les rapports de pouvoir. Mm. Donc, des hiérarchiques, etc.
Mais du coup, contrer aussi un peu... Fin...
Pour moi, c'est pas violent, justement, à partir du moment où c'est consensuel. Ouais, tu vois. Ouais. Après, si tu penses que faire du cutting, c'est violent, c'est vraiment une violence, mais...
Non, mais c'est peut-être c'est une question de terme, enfin, j'imaginais pas le...
Oui, non, ouais. C'est intéressant de savoir si on utilise le terme violence ou pas, pour visualiser,
ouais.
Pour parler du SM.
Ouais.
Du
SM. Et pour la distinguer d'autres pratiques, par exemple, mais ce qui est, du coup, un peu... Bref. Mais, oui, voilà, je trouvais ça intéressant, finalement, que tu montres que finalement ça permettait de démultiplier aussi le nombre d'identifications d'identification féminine, pour les femmes. Voilà, c'est-à-dire que finalement on peut avoir des identifications pas seulement dans l'homosensualisme ou dans l'espèce d'une douceur, etc., mais qui peut
Le SM,
plein d'autres identifications, et c'est intéressant de ce point de vue-là pour les femmes.
Le SM lesbien, il est arrivé pour contrer cette vision justement doucereuse, homosensuelle du sexe lesbien, quoi. Il y a besoin tout le temps de ça, et aussi du côté romantique. Je pense que le SM lesbien, il a par exemple, quand Foucault dit, ou les gens dans le SM disent souvent, les genres, ça compte pas. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que, au contraire, dans le SM lesbien tel qu'il est apparu sur la scène à San Francisco, des gens comme Califia, qui jouaient au Catacombe, où jouait Foucault, etc., où il y avait des hétéros, des bis, le SM est transversal, mais c'était quand même une culture SM gay. Et il y a eu la rencontre de la culture SM gay, qui avait aussi sous ce travail sur l'analité, la pénétration, le fist fucking, ça peut pas être violent, par exemple. Ou alors t'es un asshole, quoi. Parce que tu peux pas pénétrer quelqu'un, surtout si tu mets l'avant-bras ou les deux avant-bras mal. Tu peux pas dire, c'est impossible. Ou alors tu le, enfin voilà. Donc je pense que c'est en plus, c'est concomitant avec toute la reconquête un peu d'identité butch, femme, donc de rôle de genre assez marqué, qui avait été barré, enfin, qui ne pouvait pas être revendiqué, parce que les lesbiennes, c'était dans le mouvement féministe, c'est identifier femme, et donc l'ennemi principal, c'est l'homme, donc il y a tout ce problème. Et qu'elles n'avaient pas voix au chapitre, quoi. Enfin, elles n'ont toujours pas voix au chapitre dans les mouvements féministes. Hein. Voilà. C'est pas vrai que les mouvements féministes aimaient lesbiennes, c'est pas vrai du tout. Donc, il y a eu ça, et donc c'était aussi pas jouer avec les gens de manière light, mais il y avait toute cette performance, et ça, le SM est très performatif aussi, très théâtral, et je pense que vraiment, dans le SM lesbien, ça compte toutes ces histoires de je joue avec la masculinité ou pas, les rôles de daddy, la scène daddy, t'es mon papa, je suis ton je sais pas quoi, le queer, enfin au sens leather, etc. Parce que quand tu mets, je suis désolée, tu mets du queer, nous quand on l'a fait, moi quand je l'ai fait, tu sens des choses, c'est vrai que tu sens de l'énergie au sens, c'est empowering, il y a quelque chose. Donc c'est arrivé, je pense, à prendre les aspects positifs du pouvoir, les sensations de puissance positive, mais le féminisme aussi cherche ça. Quand il dit on veut des femmes fortes, des femmes puissantes, la puissance c'est bien, c'est positif. Le problème, c'est les rapports de pouvoir, qui ne font pas du bien. Hein. Donc le SM, ce n'est pas là pour que les gens soient mal. Donc encore une fois, je pense que le SM lesbien a été super important, quoi. Il a permis d'être sur beaucoup de fronts, à la fois personnel et sexuel. Et tout ça, pour moi, c'est indissociable. Et le film de Monica Truitt, Virgin Machine, raconte ça, je trouve, très 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 bien, hein, avec Dorothée qui part d'Allemagne, qui va... à San Francisco et qui découvre tout ça, qui découvre la scène, bien sûr,
Virgin Machine.
Alors, Monica Truitt ne serait pas contente, parce que c'est embêtant de télécharger. D'abord, je crois qu'elle l'a bien protégé. Je crois plutôt qu'elle a des problèmes avec les gens qui le programment dans le monde et qui ne lui payent jamais les fils. Mais vraiment, Monica Truitt, là aussi, hein, voilà, Bruce Labrousse, il a une certaine notoriété, il se plaint tout le temps, mais il a de l'argent pour faire ses films. Il a un producteur, Jürgen Brunig, qui le suit depuis très longtemps à Berlin. Monica Truitt a fait vraiment une quinzaine de films, on en parle peu. C'est une réalisatrice queer super intéressante. C'est dommage que, oui, enfin, je veux dire, je voulais revenir au problème de l'argent, c'est-à-dire qu'elle est productrice souvent, enfin bon, elle ne paye pas des productions, mais elle est quand même sur son site, vous y allez, c'est quand même la génération, on va dire, des réalisatrices, distributrices, un petit peu, etc. Donc, vaut mieux acheter le DVD. Mais moi, ça fait quand même que 10 ans que j'essaye de faire sortir le coffret des films de DVD de Monica Truitt en France. Hein.
Ah ouais.
Hein, alors, bon.
Ouais. Bah justement,
Mais Virgin Machine, oui, il faut le regarder parce que c'est vraiment. En plus, je pense que c'est un peu autobiographique. C'est vraiment là ce qui s'est passé quand tu étais lesbienne dans les années 90 et que tu te prenais dans la figure tout, quoi. Parce que ça a été chaud, quoi. Enfin, le SM, le porno, le...
Ça se passe à San Francisco, c'est ça?
Ça se passe à San Francisco, elle va à San Francisco, elle rencontre Susie Sexpert, elle rencontre Nan Kinney et Deborah Sandal, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont fondé On Our Backs, qui était, pour se foutre des féministes, On Our Backs, qui était le magazine de cul lesbien le premier, qui ont fondé Fatal Video, qui est la première maison de production de films lesbiens, fait par des lesbiennes, pour des lesbiennes, etc. Et t'as une mise en abîme, en fait, dans Virgin Machine, à un moment, Dorothée, elle arrive, elle va dans un club lesbien, où il y a du burlesque, et elles ont inventé une espèce de burlesque où il y avait du striptease pour les filles, et très rapidement ça s'est mélangé avec la culture drag king. Il y a un drag king extraordinaire, donc Ramona dans le film, et qui est joué par Shelley Mars, qui est un des plus grands drag kings, et qui fait, enfin, il faut absolument voir ce film, c'est absolument génial, quoi.
Cool. Non, on peut peut-être, ça donne envie.
Bon, la radio,
mais
faut le projeter, faut faire une projection.
Alors, vraiment. Peut-être, pourquoi pas. Et puis du coup, je sais pas ce qu'on pensait, on peut peut-être conclure là-dessus. Et je me disais, se dire au revoir et faire, je sais pas, évoquer quelques réalisatrices et réalisateurs, comme ça, des noms, pour que... Bah, c'est
ah
con,
oui, pour
mais
le post-porn.
Pour les gens, oui. Pour qu'ils puissent éventuellement chercher, quoi. Mm-hmm. On sait jamais. Mm-hmm. Donc on a cité Bruce Labrousse, Monica Truitt. Donc T-R-E-U-T.
Monica Truitt.
Il y a Courtney Trouble.
Queer Porn, vous allez sur son site, il est très bien fait, vous trouvez
celui
tous
de
ses
Courtney
films.
Trouble.
Mais il faut acheter, hein, c'est... Mm. Voilà. Il y a tous les films de Madison Young. Là, on donne des noms de réalisatrices, où bon, bah, on trouve facilement plusieurs films, parce qu'ils en font beaucoup, ils en font 4-5 par an, quoi.
Ouais.
Donc,
d'accord.
Et après, bah, y a la petite production, on va dire, de performance, de mini-films post-porn. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Il faut regarder par rapport au festival, il faut regarder sur... Alors, c'est plutôt par les noms de collectifs.
Est-ce qu'il y a un festival post-porn en France, par exemple ?
Quand on a fait deux éditions du Porn Film Festival en collaboration avec Jürgen Brunig, justement, le producteur de Bruce Labrousse, qui lui en est à sa 9e ou 10e édition de festival. C'est lui qui a lancé cette histoire de Porn Film Festival. Et bien sûr, on programmait toute la... D'ailleurs, on programmait que du porno différent. Donc, on mettait toute la production post-porn. C'est un travail qui reste à faire, c'est de faire un peu l'inventaire des collectifs en Espagne, au Brésil, de récupérer les vidéos. Mais souvent, ces vidéos sont des vidéos de perf politiques, ne sont pas nécessairement des vidéos pour mouiller la culotte, quoi.
Ouais.
Mais la production, elle est microscopique.
Ouais.
C'est une vraie question, quand même. C'est-à-dire que, quand on voit le porno gay et qu'on voit le porno lesbien, bon, là, il s'est passé quelque chose, mais quand même, c'est curieux qu'il n'y en ait pas plus. Et c'est clairement pas une industrie. Enfin, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça pose une question. C'est-à-dire, pourquoi ? Est-ce qu'il faut... Comment interpréter le fait que... n'y a pas plus de représentation, ou que est-ce que ça veut dire que finalement on retombe dans les truismes, que les femmes ou les lesbiennes, ben non, c'est pas ça qu'elles veulent,
elles sont pas visuelles,
elles sont pas visuelles, maillon.
Bon, bah, je pense qu'on a fini pour cette émission. On a plus des masses de temps de toute façon. On va pas revenir sur ce qu'on a dit. Je pense si on mettra peut-être un article coécrit entre tout le monde sur le webzine, quoi.
Mais j'ai un article qui va paraître rue Descartes, donc comme c'est une revue en ligne, dès que ça sort, ça fait le point sur le post-sport.
Et ben voilà,
on mettra le lien. On mettra le lien.
Vous pourrez le récupérer tout de suite. Donc
voilà.
Bah, merci
ça sort en octobre, je crois. Maintenant, mais non, merci à vous
d'avoir participé. Et puis ouais. À bientôt.
Ouais, à bientôt.
À bientôt.
Salut.